Bonjour et bienvenue. Je me présente, Jérôme. C'est mon premier podcast aujourd'hui. Alors, je compte sur vous pour être en quelque sorte le lubrifiant qui va faire passer tout ça. Qui je suis rapidement ? Eh bien, je suis cartomancien et par exemple, tous les mardis, je tire les cartes dans un bar qui s'appelle Le Comptoir du Trésor dans le Marais. C'est l'occasion, si vous venez prendre un verre, de venir poser une question tous les mardis, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter une artiste qui m'a beaucoup touché parce qu'elle a su me sensibiliser à la gender fluidité. J'ai déjà vu son spectacle 3 fois, autant dire que je suis accro. Et au préalable, je l'avais rencontrée dans un bar, le Merci Marcha, donc un bar LGBTQIA+. Bonjour Diefa.
Bonjour Jérôme, merci beaucoup de m'accueillir.
Je t'en prie. Est-ce que je l'ai bien descendu cet escalier vers toi pour te présenter ?
Écoute, c'est vraiment pas mal. Je pourrais rajouter que je suis auteuriste, metteuse en scène et interprète.
Mais c'est justement, j'allais te demander de te présenter, donc c'est maintenant pour toi.
Eh ben voilà, donc je suis metteuse en scène, auteuriste, interprète, queer. Je me définis comme d'identité non-binaire, d'expression de genre fluide, et mes pronoms sont il, elle et yel, même si aujourd'hui j'ai une vieille voix cisgenre parce que je suis malade.
Alors, justement, dans ton spectacle, ce que j'ai apprécié, c'est que tu exposes la gender fluidité, mais aussi appliqué dans ta vie de tous les jours, puisque tu nous amènes à avoir un petit peu ta vision de ce qu'est la gender fluidité, comment tu la vis, toi, au quotidien. Comment t'es venue l'idée de la présenter de cette façon ? Je me souviens notamment d'une sorte de rail où tu allais présenter du plus masculin au plus féminin ou vice-versa. Est-ce que c'est ton quotidien qui t'a fait vivre ça ou est-ce que c'est tout simplement tes nombreux talents d'artiste qui t'ont guidé vers ça ?
Alors en fait, dans mon spectacle donc, qui s'appelle « Comment épanouir la diva en soi en respectant les innocents », je pars vraiment de ma vie, de comment je suis né androgyne, donc je ne ressemblais ni à des caractères masculins ni vraiment féminines, j'étais vraiment androgyne, donc entre les deux d'apparence, et j'ai grandi comme ça jusqu'à ma vingtaine, on va dire, massoménose 25 ans, et du coup j'étais quelque chose qui n'était pas genré à l'œil. En grandissant, en évoluant et en cherchant mon identité finalement et à essayer de comprendre comment j'avais une place dans ce monde-là, j'ai sillonné entre les genres, entre mon identité, mon expression. J'ai beaucoup travaillé pour arriver au final à être ce que je dis dans le spectacle, authentique. Comme dit Almodovar, ressembler, être 100% authentique, c'est ressembler à l'image que l'on a de soi-même. Et aujourd'hui, j'ai réussi à ressembler à l'image que j'ai de moi-même.
D'accord. Alors, c'est assez rigolo parce qu'il y a encore quelques minutes, tu nous disais au niveau de l'identité, enfin en tout cas au niveau des pronoms, c'est open bar, on peut t'appeler il, on peut t'appeler elle, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que tu vis avec tes proches, avec il y a aucune identité fixe puisque tu es sur cette gender fluidité. Ça fait longtemps que tu vis ou que tu as instauré, mais en tout cas que tu le vis comme ça.
Alors c'est sur les 10 dernières années vraiment que je me suis épanoui dans mon identité de genre. J'ai toujours été ce que je suis aujourd'hui, mais il a fallu beaucoup de chemin pour arriver à l'exprimer tel que j'en ai envie. Aujourd'hui, je suis non-binaire d'identité, c'est-à-dire dedans de moi, à l'intérieur, je ne me définis pas comme homme ou femme et je ne me suis jamais identifié en tant que tel. En revanche, dans mon expression de genre, je peux avoir une apparence masculine ou plus féminine et je circule de l'un à l'autre. C'est vrai que je me sens le plus moi quand je suis en talon de 10 maquillé, mais c'est vrai que dans le quotidien, j'ai aucun problème à ressembler à un homme cisgenre pour passer plus facilement dans la rue sans avoir des regards pénibles.
Donc si je t'ai bien écouté, Diefa, en fait, ça va peut-être te paraître pas péjoratif, mais est-ce qu'on ne s'achète pas une tranquillité en essayant d'aller d'un style qui te correspond à quelque chose qui te permet de vivre tranquillement. Enfin, j'ai peut-être été maladroit dans la façon de le dire, mais bon, je pense que tu as saisi l'idée.
Non, je vois ce que tu veux dire. En fait, le fait de s'acheter une tranquillité, ben oui, je m'achète une tranquillité parce que j'en ai la capacité. Parce que mon chemin de vie, mon identité, mon expression de genre sont suffisamment bien alignés, je suis suffisamment bien dans mes baskets aujourd'hui pour pouvoir passer d'une expression à une autre en restant moi en permanence. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont faire des transitions, qui passent d'un genre, d'une expression de genre masculine à une expression de genre féminine et qui n'ont pas le choix, en fait, parce que dans une expression, elles ne se sentent pas elles-mêmes et il faut qu'elles aillent dans l'autre. Et c'est pour ces personnes-là que c'est plus compliqué. Moi, on peut dire, moi, je suis affilié à la communauté trans dans le sens où je ne me considère pas comme cisgenre. Donc, je ne fais pas de transition au sens chimique, ni opération, etc., etc. En revanche, je suis assimilé et je suis accueilli par ma communauté transgenre parce que je sors d'un système cis. Et du coup, j'ai la chance par rapport à certaines de mes adelfes de pouvoir passer plus facilement en me déguisant en homme cis. Mais ça ne change rien de ce qui est à l'intérieur de moi.
J'entends bien. Bon, donc, c'est une grande capacité d'adaptation, si je comprends bien tout ce que tu viens de préciser. Alors, justement, cette capacité d'adaptation, moi, je l'ai vraiment ressentie dans ton spectacle. Et je vais rebondir sur le côté artistique. Ça devient où, ce besoin d'exprimer tout ça de façon artistique? Est-ce que tu as une formation artistique? Est-ce que tu... Ça te vient de gamin ou est-ce que... voilà, comment c'est né tout ça?
Alors moi, j'ai toujours eu un lien à l'art depuis que je suis enfant. J'ai commencé à faire du théâtre, je devais avoir 7 ans. J'ai commencé à écrire régulièrement vers 13 ans. Je chantais déjà à l'époque. J'ai fait de la danse aussi très tôt. Je pense que comme j'étais quelqu'un d'assez introverti et de très rejeté surtout... Dès l'enfance, dès l'école primaire, dès le collège, ça a été très très compliqué, il y a eu beaucoup de violence. J'ai eu très très vite besoin d'avoir un espace où je pouvais exprimer des choses qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et il y a eu le théâtre en premier, puis l'écriture qui a été vraiment quelque chose de salvateur pour moi. Ça a été, avant de rencontrer ma psychiatre, ça a été vraiment l'endroit où j'ai pu... me livrer et avancer, et sans faire une psychothérapie, mais en tout cas une sorte de première auto-analyse avant de rencontrer des professionnels. Ça a été vraiment... l'art est nécessaire, et sans art, je meurs.
Oui, on le ressent d'ailleurs, il y a un caractère d'urgence dans ton spectacle, en tout cas celui dont tu viens de parler au préalable. Et c'est intéressant parce que tu prépares un second spectacle en ce moment, où j'ai l'impression, si je ne me trompe pas, c'est toi qui vas me le dire, que tu te mets encore plus à nu, puisque là, tu vas nous parler d'un sujet qui t'est très personnel et qui est d'actualité également, puisqu'on va parler de santé mentale. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus?
Alors absolument. Avant d'en dire un peu plus, je rebondis juste sur un mot que tu as utilisé, c'est le mot « urgence ». Moi, dans mon travail, et je donne des cours de théâtre et d'expression et d'écriture, je parle aux artistes de l'urgence. Je pense qu'il faut avoir de l'urgence pour monter sur scène. Il faut avoir une espèce de nécessité vitale où on ne peut pas être ailleurs, on ne peut pas dire autre chose. On a besoin de ça. Et ce n'est pas se vomir ou ce n'est pas se faire une psychothérapie sur scène. Je déteste les gens qui font ça. On va sur scène pour avoir ce message, cette urgence. Alors bien évidemment, il y a des gens qui font du pur divertissement. Les gens qui veulent écouter Patrick Sébastien, on est libre. Hein. Je ne juge pas les gens qui ne font pas ça. En revanche, moi, je fais partie des gens qui ont besoin de cette urgence. L'urgence du premier spectacle, c'était justement affirmer mon genre et affirmer aussi des choses sur la sincérité, ma vision de la sincérité, dire que la sincérité, c'est simple, mais c'est très, très dur. Il faut beaucoup de courage. C'est ce que je dis dans le premier spectacle. Et là, dans le deuxième spectacle, je vais briser les tabous autour de la santé mentale en racontant ma vie. En racontant, moi je suis diagnostiqué TPB, donc trouble de la personnalité borderline. Bien évidemment, il y a de l'errance médicale avant d'arriver à ce diagnostic. Donc il y a eu des années en plus de fait d'être queer, de souffrance parce que je ne savais pas ce qui se passait dans ma tête, pourquoi il y avait ces ups, ces downs, pourquoi j'avais ces pensées morbides, pourquoi il y avait toute cette automutilation, etc. Bref, je passe les détails, vous viendrez voir le spectacle pour en savoir plus. Mais effectivement, oui, dans ce spectacle, la borderline qui est en naissance, je brise les tabous et je parle simplement de ma vie pour dire aux gens qu'en fait, en parler, c'est OK et qu'on peut en rire et qu'on peut même rire de choses graves.
Est-ce que c'est prétentieux, alors c'est pas vraiment le terme que je voulais utiliser, mais de dire que tu cherches à donner des clés à des personnes qui viendraient te voir en spectacle ou même ce soir en parlant de ce sujet, grosso modo j'ai la sensation quand tu parles de ton art que tel que tu l'as exprimé, puisque j'ai moi-même fait du stand-up et que je l'ai fait un petit peu, comme tu l'as dit, comme une forme de psychothérapie, qu'on n'est pas dans la thérapie, dans ce que tu proposes, on est dans une sorte de transcendance. Est-ce que ça te parle ?
Oui, absolument. Moi, je fais une très grosse différence entre la psychothérapie, qui est quelque chose de personnel, que l'on fait dans une démarche à part et dans une démarche avec des thérapeutes, et la catharsis. Pour moi, ce qu'on fait sur scène, en tout cas c'est ce que moi je fais sur scène, c'est la catharsis. C'est-à-dire que je transcende mes propres histoires, mes propres traumas, mes propres souffrances. Je les transcende, je prends du recul dessus et je les transforme en une forme qui va être soit humoristique, soit qui va être une forme d'art en tout cas. Pour moi, monter sur scène et venir vomir son existence, c'est pas de l'art, c'est une psychothérapie mal placée. Je veux pas faire payer les gens pour faire ma psychothérapie. Je fais mon travail de mon côté et je suis suivi, je suis très suivi, je suis médicalisé, enfin je suis médicamenté, tout ça. Mais effectivement, la catharsis, c'est moi me libérer et transcender mes traumas pour que d'autres puissent se reconnaître à l'intérieur et eux-mêmes ouvrir une porte sur leur propre trauma et leur propre fêlure.
Mais d'ailleurs, cette forme d'honnêteté, on la retrouve souvent quand on va te voir, parce que, bien entendu, j'ai parlé de ton spectacle, mais moi, je vais te voir de temps en temps au Merci Marcha, et c'est vrai que tu as une sorte de petite rubrique, souvent.
C'est peut-être à dire tout.
Voilà. Et en fait, tu as cette honnêteté de dire souvent que tu es suivi, effectivement, par ta psy. Tu en parles de façon très franche, très honnête. Et tu dissocies bien les choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie et ce qui me rend impatient d'aller voir ce nouveau spectacle. D'ailleurs, ça en est où, ton nouveau spectacle à l'heure actuelle ?
Alors, le nouveau spectacle, ça fait 2 ans que je travaille dessus, que j'ai commencé à roder les textes un petit peu, justement, au Merci Marcha, sur des plateaux de stand-up, etc., à gauche, à droite. L'année dernière, j'ai commencé à faire des lectures publiques. Donc, il y a eu plusieurs lectures publiques où j'avais assemblé tous ces textes autour de la santé mentale qui ont donné du sens. J'ai eu des très bons retours sur ces premières lectures. Et là, j'ai réécrit cet été pour trouver une forme qui va être plus théâtrale, un peu comme mon premier spectacle, parce que moi c'est vrai que j'aime bien mélanger non seulement l'humour qui est quand même 80% de mon travail, mais aussi du lyrisme, plus de profondeur, de la poésie, du lip-sync, du chant, de la danse. Et là je vais commencer le rodage cet hiver, enfin début 2026. Je suis en attente de dates dans quelques lieux à qui j'ai proposé de me laisser de l'espace, donc j'espère que je vais pouvoir commencer cet hiver.
C'est tout le mal que je te souhaite. En tout cas, moi, j'étais venu te voir, c'était à la Comédie des Trois Bornes. Et on retrouvait déjà cette ambiance quand tu parles de cabaret, de lip-sync. Enfin, en tout cas, c'était très riche en termes de propositions. Donc, si j'ai bien entendu, ça va être d'autant plus riche dans l'éventail de ton art, hein, tout simplement.
Alors, d'un point de vue structure et mise en scène, les gens qui ont vu le premier spectacle vont vraiment se retrouver dans le deuxième spectacle. Puisqu'il y a toujours des ups, des downs au niveau de l'émotion, du rire, des choses moins drôles, etc. Mais du rire et des larmes, c'est ce que j'aime bien faire. Et bien évidemment, des séquences de chant, de lip-sync, etc. etc. D'ailleurs, je vais peut-être auditionner. Je ne veux pas trop en parler, parce que je ne veux pas me porter la guigne, mais j'espère que la Comédie des Trois Bornes a encore de l'avenir pour moi.
Bah, j'espère. En tout cas, nous, on est venu te voir. Enfin, moi, je suis venu te voir et j'ai ramené quand même pas mal de monde. Je suis venu te voir 3 fois. Hein. C'est pour dire comme on peut devenir vite accro à ce que tu proposes. Alors, j'ai envie d'aller sur un autre terrain parce que je me pose la question de savoir ce que toi t'aimes artistiquement, t'aimes qui, t'aimes quoi, qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, de quoi tu t'inspires ?
Alors moi, la première chose qui me fait vibrer, si on utilise ce mot, il est très bien utilisé, moi, la première chose qui me fait vibrer, c'est la musique. Moi, la musique habite mon quotidien, habite vraiment... j'ai énormément de mal avec le silence. Et du coup, la musique est vraiment quelque chose qui me remplit, et depuis très très longtemps. Ça, c'est la première chose qui me fait vibrer. Après, je suis un piètre lecteur. Donc, c'est vrai qu'en termes de lire des livres, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi parce que j'ai des problèmes d'attention. Donc, enfin voilà, il y a un travail à faire qui est compliqué. Après, je suis vraiment intéressé par toutes les formes d'art. Voilà. Tu voulais que je parle de mes références culturelles.
Si tu en as quelques-unes à nous livrer, parce que c'est toujours intéressant d'enrichir un petit peu et de partager.
Moi, j'ai deux grosses rêves comme ça qui me viennent en tête. Alors, bien évidemment, c'est au milieu de 1000 personnes. Hein. Mais en termes de seul en scène, il y a d'abord Eli Kaku, qui est à l'ancienne, j'ai envie de dire, mais qui avait déjà une forme... entre le musical et il y avait de la critique humaine à l'intérieur, il y avait une générosité, il y avait quelque chose de très très simple et en même temps très efficace, sans prétention, sans chichi. C'était un petit peu... j'aime ce côté d'être un enfant tout d'un coup qui met une perruque et qui met la robe de chambre de sa mère et qui tout d'un coup devient quelqu'un. Pour moi, il y avait un petit peu de ça, il y avait de l'enfance, il y avait de la naïveté et en même temps, il y avait... la profondeur d'une certaine poésie chez Eli Kaku qui m'a touché très tôt. Je vais pas dire quel âge j'ai puisque je suis éternel, mais donc ça c'est un petit peu pour une de mes premières refs. Et là très récemment j'ai un gros coup de cœur moi sur Anna Gatsby, qui est une stand-upeuse qui vit maintenant aux États-Unis mais qui est, je crois, de Nouvelle-Zélande, enfin bref, on s'en fout, mais qui en tout cas est fantastique, qui a fait un seul en scène qui s'appelle Nanette, que je recommande beaucoup, qui est du stand-up mais qui est en même temps très violent. Donc je recommande beaucoup Anna Gatsby aux gens qui aiment le stand-up.
Et d'ailleurs, je crois qu'on peut voir son spectacle sur une plateforme très connue avec un logo rouge. C'est toi-même qui me l'avais dit.
Ouais, il y a ces trois spectacles sur...
Les trois. D'accord. Bon, dis-moi sinon, si on veut te suivre un peu, parce que pour l'instant, tu n'as pas encore de date officielle pour la sortie de ton spectacle, j'imagine que tu as des réseaux sociaux.
Alors, les dates vont arriver très bientôt. À savoir que les dates vont arriver bientôt. Il y aura aussi de nouvelles dates de Comment épanouir la diva en soi en respectant les innocents au printemps. Donc, il y aura moyen de voir le premier et le deuxième spectacle en 2026. Mon Instagram, suivez-moi sur Instagram, @dyepha, donc D-H-Y-E-P-H-A. D-H-Y-E-P-H-A. Voilà, il n'y en a pas 50. Hein. De toute façon, en faisant D-H-Y-E, on me trouve tout de suite. Voilà, ça, c'est mon Instagram et c'est là-dessus que je publie le plus. J'ai aussi un Facebook, mais bon, qui n'est que l'écho de mon Instagram.
Bon, et puis, je crois qu'on peut tous faire quelque chose de bien parce que j'imagine que quand on est artiste, plus tu as de followers et plus tu as, on va dire, tu gagnes en légitimité auprès des salles, auprès... Donc, je crois qu'on peut tous faire une bonne action en te suivant.
Alors, c'est vrai, même si vous me mettez en sourdine par la suite, m'ajouter un follow, c'est vraiment faire quelque chose de politique, parce qu'effectivement, ça me soutient. Et j'espère aussi que les gens vont suivre un petit peu mes actualités. Et j'organise des comédie clubs, j'organise des ateliers d'écriture. Je travaille vraiment, je suis... multitask, je fais plein de choses diverses et variées, et le meilleur moyen de suivre les actus et tout ce qui se passe, c'est Instagram, c'est sur mes réseaux.
Bon, je crois qu'on l'a tous compris. En tout cas, moi, je t'ai suivi très vite, donc, et je ne le regrette pas. écoute, en tout cas, moi, pour mon premier podcast, je suis vraiment très touché de t'avoir reçu, DFA.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Ouais. Et j'ai un autre merci, bien entendu, à transmettre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Donc, si cet épisode vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Grande Interview sur la radio Querasio.
Bye.